Alors l'évangile du jour, c'est l'évangile de Matthieu au chapitre 16, les versets 21 à 28. Matthieu 16, 21 à 28. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Le texte que nous venons d'écouter fait directement suite au texte de dimanche dernier. Pierre y avait été félicité par Jésus après sa confession de foi. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Bon, l'état de grâce n'a pas duré longtemps. Voilà, Pierre se fait maintenant sérieusement reprendre avec ce célèbre arrière, « Vade retro Satanas » en latin, un peu comme les béatitudes finalement, où le malheur à vous suit de très près le « Heureux êtes-vous ». Un peu comme si la vie était un peu chienne et que l'espace entre bonheur et malheur se mesurait par l'épaisseur de papiers à cigarettes. Bon. Il faut qu'on l'avoue, le texte du jour n'est pas parmi les plus faciles du Nouveau Testament. Euphémisme. Mais ceux qui pratiquent la marche à pied et la randonnée savent bien que c'est au bout des sentiers escarpés, des chemins difficiles, que l'on découvre les plus beaux paysages et les plus beaux points de vue. Et comme les randonneurs, on va essayer de privilégier la légèreté à la lourdeur. Jésus nous a prévenus d'ailleurs que son joug était léger. Et puis peut-être que grandir dans la foi nécessite de ne pas se charger de choses trop lourdes. Et c'est vrai qu'il y a des lourdeurs, du lourd dans le texte que nous avons entendu. Il est question de croix à porter, de souffrance, de mort, d'une vie fragile qui peut se perdre. La mort est adressée dans le premier et le dernier verset. Elle est adressée pour finalement ne pas en dire grand-chose. Jésus et les auteurs du Nouveau Testament avaient bien compris l'indéfinissable de la mort. Elle est à la fois la seule chose certaine et celle dont tout ce que nous pourrions en dire est incertain. Et puis côté lourdeur, il y a aussi ce qui pourrait s'apparenter à la menace. Attention, le Fils de l'homme va revenir pour rendre à chacun selon ses œuvres. Comme si la vie n'était déjà pas assez chienne et ne se chargeait pas de nous renvoyer nos erreurs, nos manquements dans la figure, bref, de nous rendre selon nos œuvres. Ce qui participe aussi de la difficulté du texte, c'est un apparent marchandage. Il faudrait accepter de perdre quelque chose pour en gagner une autre. Jusque-là, c'est concevable. Mais alors, ce qui complique encore les choses, c'est que des deux côtés de la balance, il y a apparemment la même chose. Il s'agit de la vie, psyché en grec. Mais ce mot a un double sens en grec. Il peut désigner la vie matérielle, qu'on essaye d'assurer avec des biens matériels, comme dans l'expression « gagner sa vie », mais aussi la vie spirituelle, éternelle, liée à Dieu. Il s'agirait en fait d'accepter de perdre l'une pour gagner l'autre. Marchandage un peu contraire à nos principes de salut par la foi. Mais il s'agit en fait de faire un choix, le choix de la foi. Et pour nous aider à faire ce choix, Jésus parle en fait de valeur. Et derrière ce mot d'apparence neutre, les valeurs, il y a la question du « est-ce que ça vaut ou est-ce que ça en vaut la peine ?» Je me souviens, quand j'étais petit, à l'école primaire, dans la cour de récréation, il y avait en marge des jeux de billes, des trafics et des échanges. Rien d'illicite, je vous rassure. Il s'agissait de billes et de petits soldats. C'était avant que les figurines Panini et les cartes Pokémon ne débarquent dans les cours de récréation. 5 billes en terre contre 1 bille en verre. Et quand un camarade nous proposait un échange déséquilibré, nous répondions « non, ça vaut pas ». En fait, Jésus explique que passer sa vie à la gagner, pour accumuler des richesses, eh bien si c'est au détriment de la vie spirituelle, du lien à Dieu, eh bien ça vaut pas. Ça n'en vaut pas la peine. Ça encore, c'est relativement facile à comprendre, à mettre en œuvre au quotidien peut-être un peu moins. Mais Jésus va encore plus loin. Dans l'économie du salut, à savoir qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui ne vaut pas, il adresse la problématique du sacrifice. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Qui sait ? Jusqu'à la colline du Golgotha ? Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait du lourd. C'est lourd, une croix à porter. Bon, on m'a raconté que le condamné portait uniquement la partie horizontale de la croix, le patibulum. C'est un peu plus léger peut-être, mais ça reste lourd. Au figuré aussi, nous en portons des croix, à tel point que c'est passé dans le langage courant, avec une forme de résignation. Allez, chacun sa croix. C'est du lourd parce que l'on comprend aussi qu'il s'agit de sacrifier quelque chose, soi-même, ou une partie de soi-même peut-être. Renoncer à soi-même. Et peut-être, pourquoi pas, aller jusqu'à la crucifixion, comme c'est le cas aux Philippines, encore actuellement, où chaque vendredi saint est l'occasion de clouer quelques volontaires sur une croix. Ce à quoi nous répondons, avec confiance, que notre propre sacrifice ne sert à rien. Surtout après que Jésus ait affirmé sur la croix, tout est accompli. Si son sacrifice a tout accompli, en quoi le nôtre serait-il utile à quiconque ou à quoi que ce soit? Mais voilà, la notion de sacrifice reste ancrée en nous. Pas loin de la région du cerveau où se cache notre sentiment de culpabilité. Si je sacrifie quelque chose, si je me sacrifie, ça va aller mieux. Ma vie va aller mieux, celle des autres va aller mieux. Vous avez probablement vu, avant l'été, et ces injonctions de corps parfait, les publicités qui vantent les régimes payants, comme J'aime, ou d'autres encore. Ce qui fait le succès de ces régimes, c'est peut-être l'éventuelle qualité diététique de ce qu'il y a dans les boîtes, mais c'est surtout le sacrifice financier qu'ils représentent. J'ai payé, j'ai sacrifié, donc ça va mieux marcher. Notre croyance dans la vertu du sacrifice pour le salut ne vaut pas mieux que celle du régime alimentaire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, Jésus ne demande pas que nous le suivions sur le chemin du sacrifice ultime. Les Spartiates, je ne vous parle pas de chaussures, je vous parle des habitants de Sparte, étaient réputés pour leurs réponses courtes et percutantes, des laconismes, du nom de la région qu'ils habitaient, la Laconie. Et on raconte qu'en 338 avant notre ère, lorsque Philippe II, roi de Macédoine, me semble-t-il, voulut envahir la Laconie, il envoya un messager menacer les Spartiates avec ce message. Si j'envahis la Laconie, je vous en expulserai et je détruirai votre ville. Et la réponse des Spartiates tinte en un mot. Si. Sous-entendu, il faudrait déjà que tu réussisses à nous envahir. Ce laconisme, nous pourrons le ressortir chaque fois que quelqu'un ressortira la phrase de Jésus hors de tout contexte. Si quelqu'un veut me suivre, pour nous inciter au sacrifice, si. Si quelqu'un veut me suivre, oui, si. Mais nous n'y sommes pas obligés. Jésus nous a sortis de cette logique du sacrifice, mortifère, porteuse de mort, puisque tout est accompli. Pour paraphraser, le poète et chanteur Georges Brassens, mourir pour des idées qu'on se ferait de Jésus, de la vie, du salut, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Pour suivre Jésus, il y a bien d'autres manières que le sacrifice, que la mort, que la grande faucheuse. Ne soyons pas trop pressés. Il y a bien d'autres manières, on vous le répète dimanche après dimanche. Et puisque nous sommes encore en août, puisque c'est encore l'été et le temps des vacances, je vous propose de sortir un peu des sentiers classiques de la prédication. Je vous propose maintenant d'inviter Georges Brassens à nous éclairer, à nous accompagner pour ce temps de culte. Dans sa chanson « Mourir pour des idées », Brassens répond en chanson à ceux qui prônent le sacrifice ultime. Il chante « Ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. » Parler de luxe, comme le fait Brassens, c'est aussi parler de valeur, ce qui vaut, ce qui ne vaut pas. Finalement, comme Jésus, dans le passage que nous avons lu. Je vous parlais il y a quelques minutes du double sens du mot « vie », « psyché », la vie matérielle qu'on essaye d'assurer en accumulant des biens matériels, et aussi la vie spirituelle, celle qui nous relie à Dieu, à l'éternité. Alors laquelle de ces deux psychés, laquelle de ces deux vies pourrait être notre luxe ? Vie matérielle ou vie spirituelle ? Si est luxueux, ce qui est rare, pas donné à tout le monde, pas nécessaire stricto sensu, à votre avis ? Dans notre monde qui a multiplié la production de biens matériels, de divertissements en tout genre, où est le rare ? Où est le luxe ? Convenons-en, le rare, le luxe, le pas donné à tout le monde, c'est quand même la dimension spirituelle de nos vies. Le PIB mondial a beau augmenter, la technique a beau produire des méga-usines, des intelligences artificielles sans cesse plus efficaces, rien de tout cela ne permettra à quiconque de racheter son âme, nous dit Jésus, de développer sa vie spirituelle. Un grand penseur de la vie intérieure, de la vie spirituelle, fut Søren Kierkegaard. Il a écrit beaucoup de livres, mais il en a écrit un en particulier sur les maladies de la vie spirituelle, les maladies du moi. Ce livre, c'est le traité du désespoir. Kierkegaard introduit ainsi son livre. L'homme est esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit ? C'est le moi. Mais alors, le moi. Le moi est un rapport se rapportant à lui-même. Bon, pas toujours compréhensible comme ça. Søren, tu pourrais faire des efforts pour qu'on te comprenne un peu mieux. Mais vous allez voir, c'est simple. Le rapport fait référence au tiraillement en nous. Rapport entre finitude et éternité. Je suis mortel, mais j'aspire à mieux que ça. Rapport entre liberté et nécessité. Je voudrais faire ce que je veux, mais il faut bien consacrer du temps à gagner sa vie, à gagner de quoi manger, de quoi se loger. Rapport entre notre faiblesse évidente et notre volonté de domination. Voilà pour le rapport. Mais le rapport se rapporte à lui-même quand nous prenons conscience de ces tiraillements. Et elle commence là, la vie intérieure. C'est là que le moi commence vraiment à exister. Et lorsque Jésus prêche un royaume au-dedans de nous, comme dans l'évangile de Luc, c'est ce que nous avons lu en introduction au culte, il pointe déjà cette vie intérieure. Pour Kierkegaard, la première des maladies, c'est d'ignorer que l'on a un moi. Ignorer, en fait, toute vie intérieure. Ne se préoccuper de ce qui est extérieur à nous, de tout ce que l'on peut voir, toucher, manger, boire, sentir. Rien de tel pour être ballotté au gré des vagues, des courants et des modes. L'autre maladie du moi, pour Kierkegaard, c'est de vouloir se défaire de son moi, parce qu'il ne nous plaît pas. Bref, se tromper en voulant être quelqu'un d'autre, plus fort, parfait, sans tâche. J'aurais voulu ressembler à Jules César pour ressembler à mes faiblesses, ou à Martin Luther King pour renoncer à mes lâchetés. Cette volonté, lorsque nous l'avons, elle n'est pas de nous. Elle ne vient pas de nous, elle nous vient du regard des autres. Elle est volonté de puissance sur nous-mêmes pour nous conformer à ce que nous voudrions être ou pour plaire et faire envie. Dans le texte que nous avons lu, Jésus parle de trouver la vie, la psyché. Elle est déjà là. Nous n'avons pas besoin d'en fabriquer une autre. Renoncer à soi-même dans la bouche de Jésus, ça n'est pas renoncer à sa vie intérieure, mais c'est au contraire renoncer aux injonctions sociales, à notre propre construction du moi, en réponse aux injonctions sociales et au regard des autres. Injonction de réussite matérielle, injonction de bonheur, injonction de perfection du corps, de l'esprit, injonction de performance. Cette volonté de puissance nie nos contradictions. C'est ce faux moi dont parle Jésus et dont il nous appelle, à nous défaire pour trouver le vrai moi. Et pour Kierkegaard, le rapport, c'est-à-dire toutes nos contradictions, ne peut se résoudre que devant Dieu, en posant tout cela, le moi, devant Dieu. Une manière de poser notre moi, nos contradictions, devant Dieu, c'est la prière. Reconnaître que Dieu nous a aimés le premier, tel que nous sommes, c'est aussi une manière de poser notre moi devant Dieu, de résoudre nos contradictions. Pas besoin de mentir, pas besoin de se mentir, de lui mentir. Poser nos contradictions, c'est aussi ce que nous faisons chaque dimanche lors de la prière de conversion. Brassens, dans sa chanson, use même de l'expression qui est passée dans le langage courant, « rendre l'âme à Dieu ». Or, s'il est une chose amère, chante-t-il, désolante en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Si le langage courant considère que rendre l'âme à Dieu, c'est la fin de toute chose, on peut aussi comprendre l'expression comme l'action de poser son moi, sa psyché, devant Dieu. Rendre l'âme à Dieu serait la dernière chose à faire, mais poser son moi, sa psyché, sa vie intérieure devant Dieu serait bien la première chose à faire. Loin de moi de vouloir virer dans la mouvance complotiste, mais je voudrais donner raison à un autre Georges. C'est pas Brassens cette fois, mais c'est Bernanos qui écrivait « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Cette conspiration, Jésus l'a vue venir. Elle est inhérente à la nature humaine. Elle est liée d'abord au matérialisme. Ce qui compte, c'est ce que je peux toucher, voir, goûter, acheter ou montrer aux autres. Ça, Jésus l'a bien senti. Les évangiles nous mettent sans cesse en garde contre cela. Pas la peine d'accumuler. Les lys des champs et les oiseaux du ciel sont même convoqués pour nous faire la leçon. L'autre face du complot est dans la vitesse et l'accélération, qui laisse finalement très peu de temps pour entretenir son moi, sa vie intérieure. Il paraît que certains regardent même des films, des séries télévisées en accéléré, à la vitesse double, comme d'autres font du tourisme en accéléré, l'Europe en une semaine, un jour à Paris, un jour à Rome, etc. Histoire peut-être d'avoir l'impression d'avoir vécu deux fois plus à la fin de sa vie lorsqu'il faudra rendre l'âme à Dieu. Pour ce qui est de l'accélération du temps, Jésus, Paul et les auteurs du Nouveau Testament ont une vision qui ne peut pas être la nôtre près de 2000 ans après. Paul nous écrivait que les temps sont courts. Jésus a pensé que le jugement et son retour seraient imminents. C'est ce qu'il dit à la fin du texte que nous avons lu quand il dit que certains seraient encore vivants. Ils ont tellement désiré voir Dieu intervenir qu'ils ont fait une erreur de perspective. Vous avez peut-être vu ces tableaux, ces tableaux religieux du Moyen-Âge. On y voit couramment Jésus ou la Vierge. Ils sont au deuxième plan, mais ils sont plus grands que les autres personnages qui sont au premier plan. Bon, c'est bien que la perspective habituelle, c'est que les grands personnages sont devant et les petits sont derrière. Mais on ne pouvait pas représenter Jésus et la Vierge comme plus petits que les autres personnages. Pareil pour le jugement, le retour de Jésus. Il est tellement important, tellement désiré qu'on se trompe sur la distance qui nous en sépare. Erreur de perspective. Nous avons bien compris, 2000 ans après, qu'un discours sur l'imminence du retour de Jésus n'est peut-être plus pertinent. D'ailleurs, les textes un peu plus tardifs du Nouveau Testament n'ont pas pu faire l'économie de ce constat. Jésus n'est pas en retard, nous raconte-t-on, c'est Dieu qui est patient. Pour ce qui est de la menace du jugement imminent, jugement qui marquera la fin de toute chose terrestre, Brassens répond en chanson. jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées, n'ayant plus cours le lendemain. Brassens fait finalement le constat qu'il n'y a pas urgence. On peut bien flâner, comme nous face au jugement 2000 ans après. S'il y avait urgence, on nous l'aurait dit. Et si Jésus, lui aussi, veut flâner en chemin pour son retour, nous nous en accommoderons très bien. Nous aussi, prenons donc le temps de flâner. L'accélération de toute chose ne nous accordera pas une vie plus longue et encore moins une vie éternelle. Le retour de Jésus, tel qu'annoncé dans le texte d'aujourd'hui, peut être reçu non pas comme une menace, mais comme une libération. Pas la peine d'accumuler pour calmer nos peurs du lendemain. Tout cela est futile. Et c'est aussi ça, ne pas se conformer aux habitudes de ce monde, au siècle présent, comme nous y incite Paul dans le texte de l'Épître aux Romains qui est le texte du jour. Face au complot contre la vie intérieure, prenons donc le temps de flâner. Et quitte à flâner, évitons de porter des charges lourdes. Pas de croix à porter, pas de sacrifice. Brassens nous parle à la suite de Jésus de valeur, en nous incitant à ne pas nous tromper de valeur, en privilégiant non pas des idées qui n'auront plus cours le lendemain, mais bien au contraire, des idées, des conceptions de la vie qui auront encore cours le lendemain, le surlendemain, et le jour d'après, et encore le jour d'après. Bref, des idées et des conceptions de la vie intérieure qui nous relie à l'éternel. Amen.